Est-ce que c'est plus difficile finalement, Mathieu, d'inventer inventer un monde qui n'existe pas. Par exemple, un fantaisie d'inventer des cartes, des groupes, des façons de vivre aux gens. Est-ce que inventer une cohérence, parce que c'est pas parce que c'est de la fantaisie ou de la science-fiction qu'il faut pas que ça soit cohérent, est-ce que ça demande une autre rigueur? Est-ce que c'est pas aussi difficile?
Alors, je pense que c'est difficile. Donc, bon, mon premier roman se passe dans des milliers de nuits, dans un univers de milliers de nuits. Et je n'ai pas fait de carte. J'ai choisi de pas situer ça parce qu'on est dans un univers de contes. En fait, ce qui me plaît dans cet univers imaginaire, c'est surtout qu'on peut les imaginer. C'est pas tellement de les représenter, c'est plus de les imaginer. C'est vraiment de vivre cette expérience d'un autre monde dans sa tête. De la même manière, dans celui qui est là, tout au milieu du monde, ça parle d'une préhistoire qu'on ne situe pas, on ne va pas dire, c'est en moins 27 000, donc la fin du néolithique, avec, enfin, ça se passe pas dans ce qui donnera plus tard les Alpes de Haute-Provence, non, ça se passe juste sur un littoral côtier, pas très loin de sommets neigeux, et on ne sait pas ce que c'est. Ça pourrait très bien être les Alpes comme un monde qui n'existe pas, c'est pas. C'est vraiment, après, ça demande un petit peu plus d'exigence, mais en tant qu'auteur, moi j'aime bien vivre des choses dans ma tête avant de les écrire, et du coup, je pose des questions, en fait, j'interroge la représentation, pourquoi est-ce que les gens font ça comme ça? Et si par exemple, dans les arpenteurs de rêve, il y a des magiciens par exemple, et ces magiciens, ils ont été brûlés au Moyen-Âge, puis on s'est dit que les magiciens se sont dit que c'était peut-être bien d'être discrets, donc ils se sont mis en retrait de la société, ceux qui restaient après les chasses aux sorcières. Et du coup, en fait, c'est un monde où la magie existe, mais où elle est tue. Et simplement, on questionne pourquoi est-ce qu'on a voulu brûler les magiciens, sachant que les chasses aux sorcières, a priori, on a brûlé surtout des innocentes, et je pense que les sorcières étaient pas mal intentionnées si on l'avait. Et là, c'est des magiciens qui ont des vrais pouvoirs très très concrets. Alors, en fait, ces magiciens, pourquoi est-ce qu'on se méfie? Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils ne se saisissent pas du pouvoir et ne deviennent pas des dictateurs, en fait? C'est des questions qu'on pose, donc on projette un petit peu les réponses qu'on envisage, et puis après on les écrit. Et ça fait un tout cohérent au final.
Et vous gardez un lien avec le monde actuel, en fait, dans votre dans cette série, en tout cas.
Oui, les arpenteurs de rêve, donc c'est un lion, ça se passe à Lyon, vraiment. C'est très, très terre à terre, en fait, ça se passe vraiment dans quelque chose qui pourrait ressembler à Lyon. C'est pas, pour le coup, c'est pas comme Victor qui met de l'électricité partout, qui galvanise toute la France. Il y a vraiment, et puis toute la littérature, on reparlera. Et en fait, c'est un lieu très concret, très quotidien, dans lequel il y a des touches qui vont être amenées à ressurgir aussi par certains événements, notamment la libération de Fay sur Lyon, qui sont très très méchantes. Donc dans le deuxième volume.
Un peu dans votre ouvrage, vous avez dit le mot l'Uchronie, et donc on est en Europe, mais pas seulement en Europe d'ailleurs. Alors l'Uchronie, il y a donc un point de divergence. Quel est-il, ce point de divergence?
Alors je ne vais pas parler du point de divergence, puisque en fait, alors, expliquons peut-être ce qu'est l'Uchronie au passage, on ne sait jamais. Alors une Uchronie, hein, c'est une, on a le mot utopie. Le U est privatif, donc une utopie c'est un lieu qui n'existe pas, l'Uchronie, U privatif, c'est le temps qui n'existe pas. Donc c'est l'histoire qui déraille. À un moment donné, une action, quelque chose s'est passé qui ne devait pas se passer, et donc l'univers est parti dans une toute autre direction. En l'occurrence, dans l'Empire électrique, on ne sait pas ce qui a provoqué le point d'Uchronie. Ce qui est certain, c'est que Napoléon a gagné la guerre à la fin du XVIIIe siècle, a conquis toute l'Europe. Et donc, à imposer un empire qui perdure. Et à la fin du XIXe siècle, on a un empire français qui règne sur le monde. Et Napoléon II, son fils, a duré aussi longtemps que la reine Victoria dans notre monde et gouverne l'Europe. Et il n'y a pas que ça qui a changé. L'électricité est devenue la science dominante, l'énergie fabuleuse. Alors, je m'inspire du fantasme de l'électricité. Des écrivains comme Jules Verne ont pensé que l'électricité allait tout résoudre, tout pouvoir. L'électricité qui est encore une force mal connue, qui était mélangée avec l'énergie vitale. Mesmer parle du magnétisme animal, donc on faisait une espèce de gros gouloupi-goulba qui mélange énergie électrique, énergie vitale. Et je reprends cette pseudo-science du 19e siècle pour en faire une réalité. Je prends toujours l'exemple de Jules Verne et du Nautilus, qui pourrait expliquer comment le Nautilus fonctionne à l'électricité, écrit que le Nautilus puise dans l'eau de l'océan du sodium pour en faire de l'électricité. Sauf que c'est n'importe quoi, bon, c'était pas possible. Mais je trouve ça fascinant qu'un auteur ait pu imaginer une façon originale de produire de l'électricité, même si scientifiquement ça ne tient pas la route. Et donc c'est ce mode de fonctionnement que je voulais remettre au bout du jour. Et du coup, j'ai oublié la question.
Oui, c'était le point de départ de l'Uchronie.
Oui, le point de départ de l'Uchronie, on ne le connaît pas concrètement. Je le développerai peut-être, puisque je compte bien faire d'autres choses dans cet univers, et peut-être écrire cette fois à la fin du XVIIIe siècle. Là, mes aventures se passent à la fin du XIXe siècle. Et donc, le point d'Uchronie, pour l'instant, on ne le connaît pas. On a juste, du coup, c'est ricoché, à savoir que Napoléon a vaincu. Et je préfère ne pas m'étendre sur le point d'Uchronie, parce que justement, je voudrais le développer et il n'apparaît pas si important parce que pour comprendre l'univers, il n'a pas besoin de le connaître. D'ailleurs, j'en profite du coup pour continuer sur le concept du livre, comme ça, ce sera une base sur laquelle on pourra discuter. Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre des figures de littérature du 19e siècle et de les traiter comme des personnages réels. C'est-à-dire de se dire, voilà, dans Sherlock Holmes, dont j'utilise 6 personnages principaux qui sont Sherlock Holmes. Le docteur Frankenstein, Zorro, Gavroche, le petit gamin des Misérables, Jack l'Éventreur et Nemo. Merci. Il a été à côté de moi pendant 3 jours, donc il commence à connaître le capitaine Nemo. Et de me dire si ces personnages, si on part du principe que ces personnages vont réellement exister dans notre univers, alors dans un univers uchronique, dans un univers voltapunk, c'est un mot que j'ai inventé pour ne pas dire steampunk parce que je suis une diva. Dans cet univers, alors ces personnages ne sont plus les mêmes, parce qu'elles ont été atteintes par l'Uchronie, elles ont été uchronisées. Et donc mon Sherlock Holmes, mon Nemo, mon Zorro ne sont plus les mêmes, parce qu'ils ont vécu une histoire différente, et que vous-même, si vous aviez choisi un autre métier, si vous aviez fait d'autres choix dans vos vies, vous seriez toujours les mêmes personnes, mais vous seriez un peu différentes. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ces personnages.
Ils n'ont pas un repère pour le lecteur. Si on connaît Sherlock Holmes, si on le connaît bien, finalement, c'est pas celui-là qu'on va retrouver.
Alors justement, si c'est un repère, mais parfois un repère en creux. Parce que pour écrire ce livre, j'ai mis assez longtemps, j'ai mis 4 ans à l'écrire, et j'ai relu à peu près tout ce qui, toutes les aventures de ces personnages, et tout ce qui avait, une grande partie, pas tout, parce que ce serait orgueilleux, mais une grande partie de ce qui avait été écrit sur ces personnages. Donc j'avais emmagasiné énormément de détails, énormément d'éléments de leur vie fictive, tout cela dans le but de les décaler dans mon univers de façon crédible, afin que et pour faire des références. Donc vous allez, par exemple, quelque chose de très qui se remarque à la lecture, c'est que Sherlock Holmes ne connaît pas dans cet univers Watson. Peut-être va-t-il le rencontrer, mais pour l'instant il ne le connaît pas. Et quand il le croisera, leur rencontre se passera certainement de façon différente. Peut-être ont-ils pris des chemins qui les éloignent trop l'un de l'autre pour qu'ils aient le même relationnel qu'avant. Voilà.
Parce que justement, je me demandais comment vous les connaissiez si bien, hein, tous ces personnages. Ça fait quand même beaucoup, vous en avez cité quelques-uns, mais il y en a d'autres. Et je pensais à la collection des moutons électriques, en fait, les nombreuses vies de.
Alors, tout à fait, et vous m'avez démasqué. C'est-à-dire que j'ai lu les héros dans le texte. Mais bien sûr, je me suis appuyé sur des ouvrages de référence, dont ceux des moutons électriques, qui ont une excellente collection. Les tomes s'appellent, par exemple, Sherlock Holmes, une vie, Arsène Lupin, une vie, Jack l'Éventreur, des morts. Et à chaque fois, en fait, les auteurs de ces ouvrages de référence traitent des personnages comme s'ils avaient réellement existé. Alors, je trouve que ces ouvrages sont excellents.
Ils sont traqués dans toutes les œuvres, non seulement l'œuvre de l'auteur qui les a créés, mais ensuite, si on peut les retrouver quelque part, c'est fou.
Tout à fait. Ils font une recherche très, enfin, pas exhaustive, parce que ce serait impossible, mais très complète quand même. Ils donnent leur propre point de vue sur les blancs de ces personnages, parce que forcément, comme ils ont des vies fictives, il y a aussi des blancs dans leur vie. Et sur les dates des événements, et comme je suis un peu une tête de mule, je suis parfois en désaccord avec eux, mais ça ne m'empêche pas d'admirer le travail qu'ils ont fait et de vous conseiller, de vous conjurer si ces personnages vous intéressent de lire ces ouvrages.
Et alors, comment vous les avez choisis en particulier, celui-là plutôt que celui-là?
Alors, il y en a qui se sont imposés de même. Sherlock Holmes, et le travaillé en littérature, au cinéma, c'est pas un hasard, c'est un personnage qui nous est familier, c'est un jouet que j'ai pris à d'autres personnes que je compte bien passer encore ensuite, et qui était plus grand que moi, qui s'est imposé. Quand j'ai écrit Sherlock Holmes, c'est pas moi qui écrivais Sherlock Holmes, c'est Sherlock Holmes qui me malmenait, qui m'obligeait à, voilà, à lui rendre cette froideur et cette gouaille britannique qu'on lui connaît, ce caractère acerbe. En plus, mon Sherlock Holmes est encore plus acerbe parce qu'il a passé 10 ans au palier à cause de la lourdeur. Et il est obligé, en fait, au début de l'histoire, Sherlock Holmes sort de 10 ans de bagne et est obligé par l'empereur français, donc Napoléon II, à traquer d'autres résistants. Et notamment un autre résistant à l'Empire qui échappe à la police française. Et il est obligé d'enquêter, et au lieu d'avoir Watson, qu'il ne connaît pas encore dans cet univers, il est accompagné par un officier de l'armée française, un gros gars, le capitaine Edmond Gérard. Alors les connaisseurs de Conan Doyle reconnaîtront le nom de famille Gérard, puisque c'est le descendant du brigadier Gérard, qui est un autre personnage de Conan Doyle. Et donc ce Français est chargé de surveiller Sherlock Holmes et de veiller à ce qu'il fasse bien le boulot pour l'empereur. Sauf que Sherlock Holmes n'est pas du tout ravi, et que, bien sûr, le challenge mental de pourchasser ce mystérieux résistant va tenir en haleine, et qu'en même temps, vous pouvez lui faire confiance pour tenter de s'échapper.
Et Zorro, qu'est-ce qu'il fait, Zorro ?
Alors, Zorro, je suis désolé, je parle beaucoup. Zorro, c'est un personnage que j'aime beaucoup, et je voulais lui rendre hommage vraiment dans ce texte. Alors, avant de continuer, je voulais préciser que ce n'est pas un roman, c'est ce qu'on appelle un fix-up. Je l'ai appris moi-même il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Donc, il s'agit en fait d'un ouvrage en 6 parties. Chaque partie est une novella, c'est-à-dire une grosse nouvelle ou un petit roman d'à peu près de moins de 100 pages. Et chaque partie est indépendante. C'est-à-dire, vous avez eu une fin, généralement un twist ou un bouleversement, parce que j'aime bien renverser les perspectives au dernier moment, si possible, sans que vous en ayez conscience, voilà, c'est mieux. Et donc chaque partie est un hommage à un personnage qui se trouve au centre du récit. Donc la première partie concerne Sherlock Holmes, c'est de l'enquête, la deuxième partie ça va être de l'horreur gothique avec Frankenstein, la troisième partie ce sera donc Zorro. Et donc j'en reviens à ce personnage. Zorro, vous le connaissez peut-être, vous le connaissez certainement, même ceux qui n'ont jamais vu un Zorro le connaissent, c'est le jeune homme qui tire son épée, qui se débarrasse des méchants entre un coup de cuir et un pot, et qui distingue le bien et le mal de façon extrêmement aisée, voire simple, et c'est beau. Sauf que mon Zorro, c'est plus ça. Mon Zorro, c'est un vieil homme. Il a 60, 70 ans. Il a compris que le bien et le mal étaient beaucoup plus difficiles à discerner. Et donc c'est un Zorro désabusé. Un Zorro qui est dans une échéance même physique, puisque c'est un vieil homme, et que pour sauter de toit en toit, pour se battre, il a besoin d'une armure électrique. Grâce auquel il a des gadgets d'ailleurs. Hein, il a toutes sortes de gadgets, vous ne les voyez pas, toute l'étendue de sa panoplie, de son armadour, puisque c'est le nom de son appareillage. L'essentiel n'est pas là. C'est qu'en fait, tout cet appareillage, ce n'est pas suffisant. De même que le jeune Zorro avait son épée, il a cet appareillage, mais ce n'est pas suffisant à régler les problématiques auxquelles il est confronté. Parce que Zorro est confronté à une situation réelle, adulte. Rester un super-héros simpliste. Il est obligé de s'engager, il est obligé de prendre des décisions cruelles, de trancher dans des dilemmes cornéliens. Et donc, il devient adulte. J'ai plongé mon Zorro dans un contexte particulièrement difficile, puisque dans mon ouvrage, en fait, il y est Don Diego de la Vega et ambassadeur au royaume de Louisiane. Parce que vous savez qu'il est californien, Zorro. Donc, la République de Californie est indépendante dans mon monde. Il est ambassadeur au royaume de Louisiane. Mais le royaume de Louisiane connaît un bouleversement sans précédent, puisqu'il y a des révoltes d'esclaves menées par un personnage à la fois charismatique mais dangereux qui se fait appeler le baron Samedi. Donc il y aura du vaudou aussi dans cette aventure. Et qu'à la frontière est de la Louisiane, la guerre de sécession entre le nord et le sud des États-Unis fait rage depuis 20 ans, puisque comme l'Empire français soutient les sudistes, eh bien, la guerre de sécession a perduré et est devenue une boucherie à long terme. Et dans ces circonstances, les sudistes envoient en Louisiane un officier que vous allez reconnaître, qui est un colonel génocidaire qui déteste les Noirs et les Nordistes, qui s'appelle Tom Sawyer. Donc Tom Sawyer se connaît Sawyer et va tenter de déstabiliser la Louisiane. Le baron Sandy va tenter, on ne sait pas, peut-être de libérer les esclaves, mais peut-être a-t-il d'autres motivations. Et au milieu de ça, Don Diego de la Vega va tenter de maintenir la paix. Y arrivera-t-il ? Devra-t-il faire appel à Zorro ?
Le pitch est parfait. Donc Mathieu, alors on va un peu s'intéresser à votre monde de rêve, ce monde parallèle que vous mettez en place. Alors on n'y entre pas tout de suite, parce que comme je le disais, on découvre d'abord cette jeune femme, cette céleste. Donc, vous teniez d'abord à cet ancrage réaliste avant de plonger dans les rêves.
Oui, alors en fait, les personnages, comme vous l'avez dit, donc, sont des arpenteurs de rêves, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'immiscer dans les rêves des gens. Alors peut-être les spectateurs, voyeurs, peut-être les modifier aussi, donc ça c'est leur possibilité. On peut discuter longtemps des implications morales que ça a. Mais en tout cas, elle le découvre lorsqu'elle arrive à Lyon, lorsqu'elle arrive dans sa colocation. Et en fait, elle n'est presque pas surprise parce qu'elle a des parents un petit peu particuliers.
Sa famille déjà.
Sa famille déjà. Une soeur sorcière, une mère sorcière, un père qui se bat un peu n'importe où et qui a des amis magiciens. Bon, peut-être a priori, elle qui n'avait jamais eu le pouvoir, bah, peut-être qu'elle en a finalement. Et en fait, je voulais vraiment convaincre le personnage avant parce que mon intention c'était de faire passer de la douceur et avoir une espèce de tranche de vie de ce personnage qui découvre des choses et en fait qui se met tout de suite à regretter un petit peu aussi cette, on parlait de passage à l'âge adulte, elle aussi. Elle emménage à Lyon, elle vient d'un homme fictif qui s'appelle Porto Riche, qui était espagnol et qui est devenu français à un moment. En fait, c'est un peu du chronique. Et donc, en fait, elle vient de ce territoire d'outre-mer pour rejoindre sa mère, faire ses études, donc accéder à l'âge adulte. Le seul problème, c'est qu'elle quitte sa maison d'enfance, la maison dans laquelle son père vit encore et dans laquelle elle a grandi. Et du coup, elle perd cette connexion avec ce paradis. Et en fait, il y a vraiment une tentation de revenir en arrière, de revivre, de se remémorer par les rêves aussi. Parce qu'en fait, les rêves, comme elle peut les modifier, elle peut se créer sa propre vision, elle peut se créer, se recréer sa maison d'enfance.
Et donc, juste aussi une petite question, peut-être pas. Maline, comment vous avez choisi une jeune fille?
Je ne sais pas. Alors, pourquoi une jeune fille? Alors, en fait, c'est une bonne question, je n'y ai jamais songé, en fait. C'est toujours imposé, en fait, Céleste, elle était très naïve, très candide, et pourtant, elle a ses tensions internes, elle n'a pas envie de quitter son enfance. Donc, voilà, ça a été quelque chose qui n'a pas été très réfléchi. Le personnage, je le vois très, très bien, j'ai tout de suite visualisé le personnage. De même que ses colocataires, en fait, les romans viennent par l'idée qui s'agglutine les unes avec les autres. Et en tout cas, les personnages au cœur de tout ça, ils sont venus tout de suite. Alors, c'est un projet que j'avais, en fait, c'est un projet que j'avais eu. Je voulais faire une nouvelle avec des gens qui rentraient dans les rêves et qui se téléportaient par les rêves. Donc, ils pouvaient passer de rêve en rêve, de lit en lit. C'était assez burlesque. Et en fait, ça ne me plaisait pas. J'ai commencé à écrire, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai lâché l'idée et puis j'ai repris l'idée quand l'éditeur de Moutons électriques, André François Biot, m'a demandé d'écrire de la fantasy urbaine. Je lui ai dit, bah, écoute, très bien, j'ai une idée. Elle était encore vers cette idée, elle voulait sortir. Et du coup, les personnages ont tous changé. Et ils sont imposés très, très facilement. Donc, ils sont tous très divers. C'est resté métisse. On a un espèce de fils de bonne famille qui a mal tourné, enfin, qui ne fait rien. On a un artiste, on a un émigré, un fils d'immigré, là aussi, on a plein de personnages divers, parce que c'est le Lyon que je vois. Et c'est tout simplement là, des personnages qui viennent comme ça. Peut-être que c'est vraiment là, ma vision de Lyon un peu cosmopolite.
Et donc, ils vont prendre la parole chacun leur tour, le plus souvent étant quand même céleste et faire part de leur expérience. Donc, elle va quand même être un peu surprise au départ de pouvoir entrer dans ses rêves parce que jusqu'à présent elle était normale et tout à coup elle arrive à faire quelque chose d'un peu étrange. Comment elle appréhende ça, cette jeune fille?
Alors, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, dans Chimère captive, le point de vue de Céleste est dominant. Donc on a un roman à plusieurs voix, un roman choral. Et sur le premier, c'est Céleste qui va dominer. Dans le deuxième, ce sera un autre personnage de la colocation. Et dans le troisième, à venir, ce sera le troisième colocataire. Donc on va avoir un glissement aussi de perception, parce que le premier roman va mettre en exergue les déchirements internes de Céleste, et le deuxième plutôt les déchirements internes de Mano, et le troisième personnage. La deuxième chose, c'est que effectivement, elle est à la fois contente et elle était bien normale, en fait. Sauf que là, on lui dit, bah, regarde, tu as un pouvoir, il va falloir que tu t'en serves ou que tu choisisses de ne pas t'en servir. En fait, elle comprend qu'elle a du pouvoir. D'ailleurs, elle le comprend à ses dépens. Elle a fait beaucoup d'apprentissage par l'erreur. Et elle l'accueille bien, mais lorsqu'elle arrive dans ce monde des rêves, elle s'aperçoit qu'elle a un blocage. En fait, ce blocage, c'est qu'elle se voit, et en tout cas, elle se rêve comme un chien, comme un gros labrador noir.
Alors, les autres
démarquent là sous leur apparence. Oui, les autres démarquent là sous leur apparence, à part Val, qui est peintre. Et du coup, dans les rêves, il a une grande trace de peinture rouge qui lui perd le front.
Et la pauvre, elle est un chien.
La pauvre, c'est peut-être un chien.
C'est assez étrange. Alors, ces rêves-là, il y a les rêves des pneus où on peut en faire, mais il y a aussi le grand songe.
Alors, le grand songe, c'est un peu l'aspect fantaisie de cette fantaisie romaine. C'est quelque chose qui est en dessous des rêves. Alors, nos inventeurs de rêves, ils vont explorer, ils vont passer des rêves en rêve. Ils vont visiter des rêves sur commande et les revisiter
des rêves. On n'a pas des commandes. Oui,
on n'a pas des commandes.
Ils ont des clients. Il y a un client, une femme qui lui dit qu'il faut aller visiter le rêve de mon mari, il faudrait qu'il m'aime un peu mieux.
Et en fait, à un moment, il tombe sur un rêve qui ne disparaît pas, qui est vide, qui ne disparaît pas le matin venu. Et c'est un rêve qui est toujours là, qui est très solitaire, qui est très impressionnant. Donc c'est une espèce de grand cratère dans une plage, en fait. Et du coup, il y a l'eau qui se verse en permanence, mais ça ne se remplit jamais. Il y a une espèce de grand monolithe noir dans le ciel. Donc c'est quelque chose de très hostile, très bizarre. Et en fait, les personnages vont se demander, mais qu'est-ce que ça fait là? Qui est en train de rêver à ça? Et qu'est-ce que ça représente? Et en fait, finalement, ils vont s'apercevoir petit à petit que ça représente des sentiments. Donc par exemple, il y a un marais qui représente l'abandon, l'isolation qu'on peut avoir quand on est seul. Il y a une forêt qui représente la menace. Donc à chaque fois, les personnages se sentent menacés par des bêtes qu'ils n'arriveront jamais à voir. Il y a cette plage aussi qui représente l'émerveillement et le sense of wonder qu'on peut trouver. Et à chaque fois, ils se disent qu'il y a quelque chose de très très sombre, une part très très sombre dans ces rêves. Et après, il y a plein de mystères autour de ça, mais ils s'expliquent un petit peu.
Vous êtes très attaché à décrire les émotions, justement, des personnages, comment ils vivent. C'était important pour vous de décrire ce que ressentent les personnages dans ce monde si différent du nôtre.
Oui, en fait, les personnages, donc les émotions des personnages sont vraiment au cœur de ce qui m'intéressait, justement, par l'aspect tranche de vie. Qu'on soit au plus proche dans l'intime des personnages et parler vraiment, au final, c'est vraiment parler de ce qui nous meut, ce qui nous émeut, vraiment la force motrice qu'on peut avoir, parce qu'un rêve, ça peut être une aspiration à la chose qu'on veut, ça peut être quelque chose de complètement incontrôlé, ça peut être une peur qui nous assaille, un cauchemar, ça peut être aussi quelque chose d'absurde et de très doux, donc c'est vraiment quelque chose qui nous touche au plus profond de nous. Et du coup, je ne pouvais pas faire l'impasse sur les émotions. Elles devaient être là. Elles devaient avoir une part très, très importante. De même que la communication. Les personnages ont beaucoup de mal à communiquer les uns avec les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui cause la plupart de leurs problèmes, c'est qu'ils ont du mal à communiquer.
Voilà, à un moment, je me suis dit, est-ce que finalement, le matin, quand ils vont se réveiller, ils ne vont pas tomber dans l'interprétation du rêve, dans la psychanalyse? Parce qu'à un moment, il y a un homme qui perd ses dents. Alors ça, c'est une image très psychanalytique. Mais non, en fait, vous n'êtes pas tombé dans cette interprétation un peu particulière du monde des rêves.
Alors en fait, j'ai longtemps hésité à mettre un psychanalyste comme personnage qui vienne commenter les choix des arpenteurs. Et en fait, ça aurait été trop bizarre, trop drôle, peut-être, pour le ton un petit peu doux du roman. Ça l'aurait plutôt que non, de là le temps, et puis quand on se réveille, on s'aperçoit qu'on a ouvert son frigo, on pense au rêve, qu'on a juste regardé les légumes, ça paraît. Et vraiment, quand les personnages se réveillent, un des personnages qui va passer beaucoup de temps dans les rêves, qui va consommer de la nourriture dans les rêves, effectivement, c'est assez symbolique aussi. On va, enfin, il va se réveiller en ayant l'impression que dans sa vie de l'éveil, dans sa vie du jour, il y a une brume grisâtre qui recouvre tout. Parce que finalement, effectivement, le rêve, l'échappatoire qu'on peut avoir par l'imaginaire, par les rêves, parfois, quand on ne la met pas à distance, elle peut masquer notre regard. En fait, c'est un voile qui va nous faire peut-être nous dire que c'est pas si bien, alors qu'en fait, il y a plein de choses à voir.
Victor, vos personnages, vous êtes moins penché sur justement leurs émotions, peut-être ce qu'on voit, leur évolution dans le livre. Vous êtes vraiment accroché sur l'aspect aventure. C'était ça qui vous intéressait avec vos personnages d'abord?
Alors, j'ai essayé de rendre hommage au feuilleton du 19e siècle, de maintenir un rythme à le temps. C'est pour ça aussi que le format des parties du livre est assez court, c'est-à-dire moins de 100 pages pour chaque partie, afin de garder ce muscle d'action habituellement. Dans le feuilleton du 19e siècle, il faut garder l'attention du lecteur. C'est-à-dire que c'était publié dans des feuilles de chou. Il fallait qu'à chaque page, le lecteur ait une raison de tourner le journal et pas de le reposer pour repartir à l'usine ou faire ses affaires, quoi. Donc il fallait maintenir l'attention du lecteur et j'essaie de faire la même chose. Et toujours effectivement dans l'oppression du lecteur presque. J'espère, c'était mon but, je ne voulais pas non plus sacrifier les sentiments et la psychologie des personnages. Et pour moi, c'était très important que le lecteur puisse voir quelle était, justement, par exemple, l'implication du personnage dans le monde et l'action de l'Uchronie sur ce personnage. C'était mon objectif, j'espère avoir réussi, c'est que l'action, parfois, est là pour vous distraire. Pendant que la psychologie du personnage est imposée par petites touches. Et à un moment donné, le personnage va prendre une décision. Et vous allez comprendre pourquoi, et vous allez vous apercevoir qu'en fait, sa psychologie a évolué, mais que vous n'avez pas remarqué de façon consciente. Et notamment, j'aime bien faire ça parce que j'adore les twists, et que pour faire un bon twist, il faut qu'on vienne, on n'arrive pas à voir la fin arriver, mais que quand elle tombe, on se dise, ouais, c'était ça. Ça ne pouvait être que ça. Et du coup, la psychologie du personnage joue beaucoup. Parce que pour qu'il y ait une action, un retournement de situation, il faut que ce retournement de situation soit crédible, il soit expliqué par la psychologie des personnages. Voilà. Et puis, le caractère de mes héros est souvent assez sombre en raison de l'univers. Et donc, je voulais aussi que l'univers réponde aux sentiments des personnages. C'est-à-dire que cet univers est un univers où la science voltaïque est un fantasme de progrès, sauf qu'elle cache une réalité misérable, puisque ce fantasme est au service des puissants, au service des dirigeants, pas au service de la plèbe, et que ce petit dysfonctionnement, en fait, imbibe un peu le pessimisme ambiant des personnages.
Monsieur les twists, vous aimez ça aussi?
Oui. Donc il y a des twists, effectivement. Alors, les twists de chimères captivées sont suspendus, ils sont plutôt, c'est pas forcément des retournements de situation, des retournements de camp, comme on pourrait en avoir, je sais pas, mais peut-être plus des façons de faire des pieds de nez au lecteur, et lui dire, regarde, en fait, tu l'as vu depuis le début, mais c'est là. Voilà, par exemple, il y a beaucoup de références à Shakespeare un petit peu partout, qui sont cachées, puis au bout d'un moment, elles deviennent complètement apparentes. Il y a un personnage qui dit « Ah oui, Shakespeare, bien sûr, qu'on le connaît tous. » Donc, ça va vraiment être une façon de faire sourire le lecteur dans cela, en tout cas. Il n'y a pas de retournement de situation en ce qui concerne les personnages eux-mêmes, même si ils vont avoir des devenirs un petit peu particuliers chacun. Mais voilà, les twists, pour moi, ils sont là un petit peu plus pour pimenter, mettre un petit peu de poivre sur le plat.
Faire attendre le second volume, par exemple, le volume suivant.
Ah oui, alors, là aussi dans la construction, en fait, dans les volumes, donc dans le premier volume, on va avoir une intrigue qui se semestre par volume. Dans le premier, c'est le problème de semestre. Et au milieu de tout ça, ben, il y a quelqu'un qui va libérer des faits. Je ne dis pas comment, je ne dis pas qui, je ne dis pas quand. Mais en tout cas, dans le deuxième, il y a ces faits, ces méchants faits des dents qui viennent arracher les dents des enfants parce qu'ils veulent des dents de lait. C'est terrible. Hein. On fait des choses terribles. Mais ce n'est pas moi, c'est l'histoire qui m'a dicté ça. Et elles font des côtes de maille en bague aussi. Et donc, en fait, ces méchants faits, elles débarquent sur Lyon.
Ça commence dans la douceur, mais ça continue pas.
Ah non, ça continue pas dans la douceur. Non. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus énergique. Et puis en même temps, les faits sont complètement décalés, elles sont cruelles. C'est des choses de limite qu'on a toujours imaginées. Sauf dans la fée des dents, notamment en Bretagne, en Irlande. Mais voilà, je voulais vraiment des faits qui ont mal tourné. Parce que c'est des choses finalement cruelles, c'est un peu comme des pies voleuses qui ont une conscience, donc imaginez. Et donc en fait, ces fées, elles vont débarquer sur Lyon, et le gros problème, c'est que les rêveurs, ils commençaient tous à plus ou moins bien s'entendre, à maîtriser leur pouvoir, et en fait, là, les fées, elles ne sont pas dans les rêves, elles sont dans Lyon. Ça leur pose problème, et ils n'ont plus rien. Et d'ailleurs, on va faire appel à une autre société, c'est le monde des magiciens. Essayer de récupérer les magiciens et de les faire coopérer pour justement faire disparaître les fées à nouveau.
Ta vision de la fée des dents me fait penser à Hellboy 2. Je sais pas si
oui. C'est une référence tout à fait assumée.
Mais je trouve que c'est génial, puisque dans les Hellboy 2, pour ceux qui ne connaissent pas, les fées des dents sont d'affreux petits animaux carnivores qui dévorent les dents, littéralement.
Elles dévorent les os aussi.
Elles dévorent les os, mais c'est ça. Donc c'est assez abominable et c'est très réjouissant de les retrouver.
Alors en fait, il y avait un peu de ça, et puis donc en fait, il faut savoir que bah, les fées, les petits esprits malins, dans les cultures anglo-saxonnes, ils sont beaucoup plus cruels que ce qu'on peut entendre avec les elfes. Et du coup, voilà, Hellboy s'appuie sur ça. Enfin, Hellboy 2, du coup, il y a une scène vraiment visuellement très très impressionnante avec ça. Alors, moi, mes fées, elles sont insectoïdes, ça ressemble à des montres religieuses, vraiment humanoïdes, avec des ailes de papillon parfois. Elles sont passées du temps enfermées parce qu'elles étaient tellement cruelles qu'un jour les magiciens se sont dit non mais ça suffit, on n'en peut plus, on va toutes les enfermer dans un coin. Donc les magiciens ont ouvert une espèce de porte, un puits dans la réalité, ils ont mis les fées dedans, ils l'ont refermé et du coup elles ont tourné en circuit fermé pendant des millénaires. Et quand elles sortent, elles sont devenues un petit peu folles.
J'en profite pour passer une citation de Terry Pratchett qui me paraît aller très bien avec la vision des faits. Ça permettra d'agrémenter cette discussion. Terry Pratchett a dit il parle des elfes, mais ça comprend tous les faits en fait. Il dit les elfes sont beaux, les elfes sont cultivés, les elfes sont intelligents, mais personne n'a jamais dit que les elfes étaient gentils. Et il a bien raison.
Donc, surtout des clins d'œil qu'on peut imaginer en vous lisant, même s'ils ne sont pas nominatifs comme chez Victor Fleury.
L'intertextualité, c'est un jeu de la littérature, je trouve. Et puis, il n'y a pas de livre unique. Enfin, il n'y a pas de livre, ça s'appuie sur une culture. Par exemple, je choisis de citer Lyon, donc je cite plein de lieux. Par exemple, je cite une statue, une fameuse statue de Lyon, une statue de Louis XVI. Et bien, en fait, cette statue, ce n'est pas moi qui l'ai construite. Hein. Je serais bien normal de remonter le temps pour la construire, d'ailleurs. Mais du coup, je vais m'appuyer sur des choses qui existent parce que c'est comme ça que ça marche. Ça a déjà été fait et ça permet d'enrichir un petit peu les lectures aussi. Et dans tous mes ouvrages, peut-être pas autant sur les nouvelles, parce que j'ai publié des nouvelles par ailleurs, mais sur les romans, en tout cas, j'ai tendance à avoir des inspirations, à vouloir les mentionner de façon un peu secrète. Donc pour les Mille et une Nuits, c'était un petit peu évident, mais il y en a plein qui sont dissimulés dedans. Pour tout au milieu du monde avec mon compère Julien Mettant et l'illustrateur Mathieu Rascaride, on a laissé plein de références à plein de cinémas parce qu'on voulait en mettre et que c'était rigolo. Et que ça pouvait donner aussi des petites secondes lectures, des éléments de plus en fait. On va avoir un éclairage, un petit spot quand on connaît la référence qui va nous donner une nouvelle vision, une nouvelle approche de l'action. Et on va simplement être satisfait. Le lecteur va être satisfait, le but c'est pas de le perdre, c'est pas un histoire qui soit satisfaisant de sang, mais d'être un petit peu plus satisfait parce qu'il a trouvé le jeu du texte.
Et au passage, la statue dont tu parles, Madame de Lyon, ce n'est pas un Louis, c'est Napoléon bien sûr, qui s'est mis à la place du monarque.
je le réécris, et puis du coup, à la place de course à l'effet, il coursera, enfin, si la course à l'effet, mais peut-être. Allez.
Et dans Victor, vous n'avez pas épuisé le monde de l'empire électrique?
Alors, non, pas du tout. J'aimerais bien encore. D'ailleurs, j'ai rédigé la moitié un roman qui se passe dans le même univers. Le but, en fait, c'est toujours d'avoir des choses indépendantes qu'on peut lire indépendamment. Mais, parce qu'en fait, c'est six histoires, je vous l'ai dit, sont indépendantes. Mais si vous lisez les six histoires, vous allez voir que des personnages secondaires, des opposants, reviennent, évoluent, et qu'une intrigue générale, géopolitique, mais pas seulement, se déploie, et ne peut être comprise que si finalement vous lisez les six histoires, qui par ailleurs ont leurs propres intrigues, leurs propres dénouements. C'est le principe de voilà, chaque pierre est une pierre ajoutée à l'édifice.
Vous continuez parce que l'univers vous plaît ou parce qu'il y a d'autres personnages, d'autres héros qui vous appellent et que vous avez envie de mettre en scène?
Oui, il y a d'autres héros. Alors là, ce sont des héros, là, j'ai choisi ces héros particulièrement, vous m'avez posé la question tout à l'heure, parce que certains sont imposés et puis d'autres ne sont pas vraiment utilisés dans la littérature steampunk, comme par exemple Gavroche. Gavroche qui est un personnage typiquement français, je crois qu'il n'a jamais été vu en steampunk, donc ça me semblait intéressant de le mettre là, et toujours en lui appliquant le principe de l'Uchronie. Donc Gavroche, par exemple, il n'est pas mort sur les barricades, comme dans Victor Hugo, donc c'est arrêté de pleurer, Voltaire, il est dans le ruisseau, bon, c'est fini. Par contre, c'est Marius, le jeune premier, le misérable, qui est mort à sa place, et donc Gavroche a épousé Cosette, et ensemble, ils sont devenus un couple romantique de révolutionnaires qui tentent de faire triompher la République, à chance, il est dans un monde dystopique où Napoléon a imposé son régime autoritaire, et ils sont précipités dans le bagne de Napoléon qui se trouve en Australie. Puisque vous savez que l'Australie était le bagne des Britanniques, dans ce monde c'est le bagne des Bonaparte, et ils sont enfermés dans une prison qui se trouve sous terre, donc une prison souterraine, au beau milieu du désert de Tanami, qui est le désert le plus chaud du monde. Et ce bagne est dirigé par une intelligence artificielle électrique. C'est un bagne dont personne ne s'évade. Sauf que Gavroche et Cosette, eux, vont essayer.
J'adore comment vous pitchez les choses. Une dernière question. Alors, vos personnages sont des êtres humains. Et vous auriez pu choisir des personnages de la littérature, je ne sais pas, moi, Dracula, vous voyez, des choses un peu plus... Non, vous n'êtes pas tenté.
Alors, du coup, vous me parlez de Frankenstein, puisque c'est ce qui me semble ma deuxième histoire. Aborde le mythe de Frankenstein.
C'est oui.
Du coup, ça va me permettre de répondre à travers cet exemple. Donc, dans ma deuxième histoire, je parle non pas du Victor Frankenstein qui vit au début du 19e siècle. Je suis assez soucieux des dates, c'est à Tillon, je n'aime pas placer des personnages un peu n'importe où. Donc, j'utilise son petit-fils, Marc Frankenstein, qui est issu de mon imagination, et qui, dans ce monde, est un jeune médecin, un peu beau gosse d'ailleurs, qui utilise la science électrique pour faire de la chirurgie esthétique au service des dames de la cour de Napoléon, pour leur retendre la peau, pour notamment, il a comme cliente Sissi, qui n'est pas impératrice, mais ça n'empêche pas d'être une élégante personne grâce à ce médecin d'ailleurs. Sauf qu'il utilise la science de son grand-père, et qu'il ne la maîtrise qu'à moitié. De plus, son grand-père ne lui a pas tout dit. Et ça va produire des conséquences catastrophiques. Un jour, la police de l'empereur vient le chercher, et je ne vous en dis pas plus, mais il est dans un sacré merdier. Et donc, pour en revenir à votre question, en fait, Frankenstein, c'est la science-fiction. Enfin, c'est pas du fantastique. Le créature Frankenstein, c'est scientifiquement expliqué. Enfin, je l'ai essayé du moins de l'expliquer scientifiquement avec les moyens de son époque. En mélangeant d'ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure, le magnétisme animal et l'énergie électrique, qui dans l'imaginaire du début du 19e siècle sont une seule et même chose, et c'est ce que je voulais faire. Donc je veux rester dans ce courant de science-fiction, de rétro-science-fiction, on va dire, et ne pas toucher au fantastique, qui pour moi est un genre littéraire différent. Et donc, en fait, il y a beaucoup de personnages qui sont de la science-fiction et qu'on prend en position fantastique. Par exemple, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est de la science-fiction, parce que le Dr. Jekyll, on a tout un passage au début de l'ouvrage où le docteur Jekyll explique qu'il prépare un breuvage chimique qui va modifier son organisme et qui va faire ressortir certaines parties de sa personnalité. Donc c'est scientifiquement expliqué, entre guillemets, de façon littéraire toujours. ce n'est pas de la science-fiction, contrairement à Dracula, qui est clairement du fantastique, contrairement à Dracula, qui lui est vraiment du fantastique. Donc Dracula, par exemple, c'est un personnage, je ne vous cache pas, que j'aime, que je voudrais utiliser, et peut-être d'ailleurs est-il dans le roman que je suis en train d'écrire, mais ce ne sera pas un Dracula fantastique. Ce sera forcément une revisite, je vais forcément revisiter le personnage en l'appliquant de la science-fiction. Et puis pour terminer avec cette question, pour ceux qui connaissent Lovecraft, qui est difficile à classer, hein, puisque c'est de la science-fiction, est-ce que les grands anciens peuvent être considérés comme une menace cosmique mais de science-fiction, ou est-ce que ce sont des monstres mythologiques, fantastiques? Je n'ai pas la réponse, je pense que on s'est déjà entretués sur cette question, donc je ne voudrais pas avoir de problème. Mais pour les amateurs de Lovecraft, j'ai voulu appliquer un léger arrière-fond, un petit lavis d'arrière-fond, avec quelques références, mais en restant dans le doute, dans le fantastique au sens premier du terme. C'est-à-dire, on voit quelque chose d'anormal, mais ça pourrait s'expliquer de façon tout à fait rationnelle, ou alors ça pourrait s'expliquer de façon tout à fait irrationnelle si on a lu Lovecraft.
Non, je disais que tous les gens qui ont été tués pour les débats sur Lovecraft ont été réanimés grâce à l'énergie électrique.
Il me reste à vous. Merci Victor, Mathieu, merci beaucoup et merci à vous.